Vous êtes bien sur Radio Résistante, la radio éphémère en direct du festival du même nom, un pool de radio associative qui est présent sur le plateau du Larzac. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau, car c'est notre bien commun et sa gestion impose des choix collectifs et partagés. L'été dernier, nous avait alerté, ce printemps et cet été le confirme, en Espagne, en France, un peu partout sur la planète, les catastrophes écologistes sont amorcées et la question de l'eau est un élément central de ces crises entre sécheresse, inondations violentes et incendies. La préservation de l'eau pour les écosystèmes, pour tous nos besoins vitaux, est une nécessité absolue. Des politiques publiques pour l'intérêt de toutes et de tous, dans le respect des écosystèmes, devraient être mises en place pour cela. Et ce n'est malheureusement pas le cas, on en parlera. Depuis Sainte-Soline, Bassines a pris un autre sens, celui du combat pour la réappropriation par la population de ce bien commun qu'est l'eau, que certains se sont appropriés et mis au service d'une agriculture industrielle dévastatrice ou de multinationales dont seul le profit est l'objectif. Dans l'Hérault, un plan irrigation est lancé par le conseil départemental avec un projet à minima 7 bassines de plusieurs hectares. Au secours, c'est le sujet de ce plateau radio en direct du Festival Résistante 2023 sur le plateau du Larzac. Je suis avec Fred d'Antenne Doc. Bonjour.
Bonjour Robert.
Voilà, et puis pour en parler avec nous, nos invités sur ce plateau, merci que je remercie d'être là. Mireille du collectif Coordo 34, bonjour.
Bonjour.
Voilà, Agnès Leclerc du collectif Stop Gravière en Ariège, bonjour.
Bonjour.
Et puis Julien Leguet de Bassines Non Merci, un des organisateurs de la manifestation de Sainte-Soline.
Il ne faut pas dire ça.
Non, il ne faut pas dire ça.
Plaisir au tribunal.
Avec ça. Julien Leguet de Bassines, non merci, de son département.
Salut à tous.
Voilà, alors on va commencer par ça. Alors on parle de bassines de retenue collinaire, on parle de...
Hivernale.
Oui, hivernale, etc. Julien, cette problématique du stockage de l'eau, ça reste le problème essentiel parce qu'il n'y a pas d'eau sans agriculture, donc il faut bien peut-être trouver des solutions.
Si, il y a de l'eau sans agriculture. Est-ce qu'il y a une agriculture sans eau? Non, de base, parce que toutes les plantes ont des besoins vitaux en eau. Est-ce qu'il y a des agricultures non irriguées? Oui, plein. Historiquement, il n'y a que ça. L'irrigation, elle a pris une part prépondérante dans la France, finalement, très tardivement. Hein. C'est vraiment dans les années 70-80 qu'il y a des forages qui sont multipliés partout. Et avant, on apprenait à faire avec ce qu'il y avait disponible. L'irrigation, ça s'appelait la pluie, tout simplement. Donc voilà, il existe bien des formes d'agriculture résilientes. Après, il y a évidemment des formes d'agriculture qui ne peuvent pas se passer d'eau. Je pense au maraîchage en particulier. Et donc, sans présager trop du débat qui vient, la question du stockage, elle se pose bien. Comment on stocke? D'où vient l'eau? C'est des questions qu'il faut vraiment traiter avec soin. L'usage de cette eau doit être regardé avec tout autant d'attention. Si c'est faire des stockages et de vider des rivières ou des nappes phréatiques pour faire du maïs pour l'export, évidemment que ça ne peut pas passer dans la population. Évidemment que c'est inacceptable. Et évidemment que c'est pour ça qu'il y a plein de citoyens qui se soulèvent aujourd'hui.
Et en particulier à Sainte-Soline, tu peux nous raconter un petit peu comment c'est organisé la mobilisation sur ce qu'on a appelé des méga bassines et pourquoi ?
La mobilisation, elle démarre en Poitou-Charentes et en Vendée il y a 15 ans de ça, parce que c'est le premier endroit en France où on met en place ce type de dispositif qu'on a nommé nous-mêmes bassine puis méga bassine, pour que les gens aient conscience de l'immensité en fait. C'est pas tant le stockage que également son immensité qui en fait quelque chose d'inacceptable. À l'époque, on parle de bassine pour dire vraiment que c'est quelque chose de complètement artificiel. C'est pas un marais qu'on va mettre en eau, c'est pas un fond de vallée, c'est pas de la retenue collinaire. Peut-être un petit peu de vocabulaire.
Voilà, j'aimerais bien que tu fasses un petit peu un rappel de définition. Une retenue collinaire, ce n'est pas une méga bassine.
C'est ça.
Voilà.
Notamment par définition, une retenue collinaire laisse entendre qu'on retient de l'eau qui s'écoule. Donc ça se remplit par définition, par gravité, et certainement pas par pompage. Donc on va faire entrer dans la catégorie bassine, méga bassine, tout ouvrage artificiel rempli par pompage en rivière ou en nappe phréatique. Évidemment, quand c'est en nappe phréatique, c'est très hautement critiquable parce qu'on sait que c'est des ressources extrêmement limitées et qui devraient être ciblées essentiellement et sur la ressource en eau potable et sur la recharge des milieux naturels. C'est pas moins critiquable quand il s'agit de prendre dans une rivière dont on n'a pas évalué les impacts. Par exemple, dans le projet qu'il peut y avoir sur la plaine de la Limagne où il s'agirait de faire les deux plus grandes méga-bassines de France, le porteur de projet fait « Ah ouais, mais on prendrait dans l'Allier, on prendrait à 1% de l'Allier dans son débit de crue. » Sauf qu'il faut bien avoir voir sur ce genre de thématique, une problématique de bassin versant, et c'est bien l'accumulation des projets qui les rend très dangereux pour le milieu naturel. Si on fait 50 bassines sur la vallée de l'Allier, bah on prend la moitié de toute la flotte disponible en hiver, au moment où les rivières devraient déborder, se recharger, recharger les sols, etc. etc.
Alors Mireille, dans l'Hérault, c'est pas dans les nappes phréatiques qu'on veut, qu'on veut pomper pour faire ces bassines.
Du coup, on nous la présente, on nous dit surtout c'est pas une méga bassine, c'est même pas une retenue collinaire, mais on nous parle de retenue hivernale. Voilà, enfin un nouveau mot. Non, c'est pas une méga bassine.
Alors comment se remplit cette
Donc en fait, parce qu'en fait, on va pas chercher dans la nappe phréatique, mais c'est le Rhône qui va venir remplir ces bassines qui sont prévues, enfin qui en projet dans l'Hérault. Et du coup, je crois que le Rhône, en fait, il est arrêté à plein d'endroits. C'est plus une rivière qui coule parce que on est à plein d'endroits. On arrête l'eau pour...
Il y a des centrales hydroélectriques, voilà, y a des centrales, et les centrales nucléaires aussi qui utilisent l'eau du Rhône pour refroidir les centrales.
Alors, il y a des retenues vertueuses ou pas, Julien?
De manière générale, de toute façon, dès qu'on retient de l'eau, ça a forcément des conséquences sur le milieu naturel. Donc je reviens du Massif Central et du plateau des Mille Vaches. Dans les années 60, il y a une grande campagne de création de lacs artificiels, d'étangs à vocation ludique, récréative, etc., qui peuvent se justifier. Hein. Quand c'est du privé, ça se justifie difficilement. Quand c'est pour que tout le monde puisse aller se baigner, peut-être que ça devient plus acceptable. Toujours la question de l'usage. Hein. Il n'y a pas de dénonciation a priori d'une technicité. C'est la technicité au service de quoi? Et ça, c'est quand même vachement important de le remettre sur la table. En tout cas, en écologie et en hydrologie, une retenue a toujours ses effets systématiques. C'est que ce sont des facteurs de réchauffement de l'eau. Au bout d'un certain stade, ça déstructure complètement la biodiversité des milieux. C'est le même effet que le refroidissement des centrales nucléaires. Hein. Il y a des caps fatidiques à 25 et 30 degrés qui font qu'en termes de biodiversité, c'est un effet quasi stérilisateur. Il y a également le fait d'obstruer des cours d'eau qui rend difficile la migration et des animaux type saumon et tous les animaux qui vont utiliser cette voie comme voie de migration. Également la migration et les transferts des sédiments, la recharge des fonds, etc. Donc ça, c'est une constante. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est acceptable sociétalement? Ça dépend de la finalité.
Et la finalité, c'est pour l'agriculture. Mais Mireille... chez nous, par exemple, dans les Hauts, pour quelle agriculture?
Du coup, en fait, l'idée, c'est qu'on nous explique que les viticulteurs, puisque du coup, l'Hérault est quand même un endroit où la monoculture de la vigne est quand même hyper importante. Et donc, en fait, on nous explique que c'est pour arroser de la vigne. Enfin, on nous explique que la vigne, elle a besoin d'eau, alors qu'en vrai, la vigne, elle n'a pas besoin d'eau, quoi. Enfin, on nous explique que la vigne, elle vit 20 ans, alors que non, la vigne, elle vit plus de 100 ans. Si ses racines sont installées, elle va chercher l'eau très profondément, elle n'a pas besoin qu'on l'arrose. Mais là, on explique aux gens que la vigne, elle vit que 20 ans et qu'il faut l'arroser si on veut... qu'elle donne du raisin.
Oui, mais du raisin, aujourd'hui, on est en surproduction de vin, on va distiller 3,5 millions d'hectolitres de vin. Donc, en gros, on fait des retenues d'eau pour arroser une vigne pour faire du vin qu'on va distiller. On se mord la queue.
Je peux me permettre de distiller pour savoir ce que ça veut dire. À la base, je croyais que distiller, c'était pour faire un autre alcool, en fait. Et là, on en fait du gel hydroalcoolique ou du bioéthanol, en fait. Donc, en fait, alors que peut-être dans l'Hérault, on a peut-être besoin de manger des tomates. Ou de manger, enfin, si on doit arroser quelque chose, arrosons des choses qui servent.
Est-ce que ce sont des vignes qui sortent des nouvelles biotechnologies?
Est-ce que c'est des...
Des vignes qui sortent des nouvelles biotechnologies, enfin OGM, quoi, pour dire clairement.
Non, le problème de la viticulture dans l'Hérault, c'est qu'il y a une trentaine d'années, on a fait ce qu'on appelle la prime à l'arrachage. Et donc, pour remonter la qualité du vin, on a poussé les viticulteurs à replanter ce qu'ils ont appelé des cépages améliorateurs. À part que c'était des cépages qui n'étaient pas du tout adaptés au territoire. C'était des merlots de Bordeaux, du Cabernet Sauvignon, etc. Parce que un, c'était la mode. Deux, il fallait faire du vin dit de qualité, alors que les vrais cépages dans l'Hérault qui sont adaptés au territoire, le Carignan ou des choses comme ça, n'ont pas besoin d'eau. Oui. Julien.
Je vois bien que dans le sud de la France, la plupart des projets qui nous reviennent aux oreilles sont à destination de la viticulture. Et chez nous, c'est plutôt au profit de la maïsiculture. Et dans les deux cas, c'est juste des aberrations agronomiques incroyables. Dans le cas du maïs, c'est une plante tropicale. C'est une plante qui est faite pour recevoir et se développer. Et là encore, il n'y a pas de mauvaise plante. Il y a des civilisations du maïs. Il y a tout un tas de peuples qui se sont développés grâce à cette plante-là, mais qui était à sa place et qui était adaptée et qui a été également sélectionnée pour être au plus près de la réalité de terrain. Et finalement, ça, c'est la grande arnaque aussi des OGM et des grandes promesses des OGM. On nous dit de l'amélioration de semences pour être... On va faire des plants qui seront moins consommateurs d'eau et tout. Mais en fait, c'est jamais ces technologies-là qui sont explorées. C'est toujours des technologies allant vers le plus de rendement, la compatibilité avec les insecticides et compagnie. Et on en arrive vraiment à ce truc complètement aberrant où d'un côté... La vigne, qui semble une des plantes les plus adaptées justement au réchauffement climatique, on sait la rendre dépendante de l'irrigation à travers des choix de semences complètement catastrophiques et en la rendant dépendante, parce que c'est ça clairement, le pied de vigne, si on lui laisse le temps, il va chercher l'eau, il n'a pas besoin d'irrigation. Par contre, à partir du moment où on l'irrigue, il ne développe plus le système racinaire, il devient tributaire de l'irrigation, il faut l'irriguer en permanence si on veut lui donner une chance de survie. C'est complètement fou qu'aujourd'hui on ait des pouvoirs publics, on ait des secteurs comme l'INRA qui sont de la recherche publique, etc., qui bossent encore, qui donnent crédit à ce type d'hypothèse. C'est du suicide collectif, c'est aberrant.
Il n'y a pas que les pouvoirs publics. On a aussi les syndicats agricoles. Hein. Et on sait, Mireille, ce qu'ils sont capables de mobiliser. On peut en parler dans l'Hérault, on en parlera peut-être après pour Sainte-Soline. Mireille.
Oui, le département a présenté ses projets une première fois à Florensac où ça s'est plutôt bien passé, où la Cordeau 34 a eu le temps de développer et d'expliquer leur point de vue. Et la réunion suivante, c'était à Magalas, et là on se retrouve avec des vignerons. Je dis, ils étaient tous de la FNSEA, j'en sais rien, mais très énervés, très... moi, juste déchirer une ma petite pancarte...
Pour l'instant.
Non. Ils me l'ont déchirée, ils m'ont chahuté, vraiment, quoi. Enfin, comme si j'avais...
Ils ont peur de quoi ? C'est quoi ? À crainte pour être aussi répressif, et on va parler de la répression à Sainte-Soline.
Enfin, Sainte-Soline, ça a été un tournant. J'ai l'impression que c'est vraiment un tournant dans les consciences. On a l'impression aussi que cette problématique, maintenant, on en parle, on la soulève, dans les deux sens du terme d'ailleurs. Et est-ce qu'il y a un petit peu plus de politiques qui se mobilisent contre ces projets ou pas ?
Moi, je dirais pas suite à Sainte-Soline. En tout cas, là, je parle du point de vue du Poitou-Charentes et de la lutte qu'on mène depuis 6 ans. Il y a un certain nombre de forces politiques et de syndicats, et pas simplement de syndicats agricoles comme la Confédération Paysanne, hein, qui est évidemment à nos côtés. On se retrouve, on partage complètement toutes les analyses, on construit ensemble les projets alternatifs, on définit l'agriculture désirable avec eux. Mais il y a des forces de gauche assez évidentes, hein, qui sont ELV, le NPA, et puis la LFI, qui sont sur les positions des bassines très claires, et qui depuis le début nous aident, font des tracts, viennent, les porte-paroles nationaux, etc., viennent, etc. Et puis il y a des forces de gauche sur lesquelles on est encore, il y a encore du travail. Sur le PCF, ça va se jouer à la fête de l'UMA. Hein, et puis je vais avoir un débat avec André Chassaigne, et puis il faudra qu'il nous dise ce que réellement est la position sur les bassines du PCF. Moi, ça me touche beaucoup parce que je suis issu de là, hein, mon grand-père, etc. Et c'est vrai que là, jusqu'à maintenant, c'est... En Deux-Sèvres, c'est très clair. Au régional, ça, en Nouvelle-Aquitaine, ça a été un point de scission. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis très clairement, et alors là, j'y vais cash, hein, le PS a un sacré boulot à faire en son sein sur quelle agriculture il désire, sur le partage des communs, etc. Aujourd'hui, ce qu'on voit très clairement dans les ruralités, c'est qu'il y a de très nombreux PS et l'UPS qui sont directement sous l'influence de la FNSEA, qui relaient mot pour mot des argumentaires de la FNSEA sur ce dossier Bastide en particulier. Et au niveau des régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, c'est une catastrophe.
Il y a les bassines, il y a aussi les gravières, Agnès.
C'est à contrario. Nous, les gravières, elles impactent les agriculteurs, en fait, et du coup l'irrigation. Et nous, on se sert du terme de bassine aussi, parce que je ne sais pas combien font les bassines, c'est 15 hectares à peu près, la plus grande bassine. Nous, c'est 250 hectares qui sont ouverts. La nappe phréatique, elle est mise à nu sur 250 hectares. Et bientôt, ça va être 1000 hectares, ça sera une mer, en fait. Et donc, nous, on utilise le terme de bassine parce que c'est rentré vraiment dans le vocabulaire. Ça, tout de suite, on se représente ce que c'est. Ça pique dans la nappe phréatique, ça la bousille. Et donc, ça fait cet espace qui s'évapore. Donc... Voilà, et nous, du coup, ça impacte les agriculteurs qui n'ont plus d'eau, les arboriculteurs, leurs arbres crèvent. Et du coup, on se retrouve sur cette lutte, y compris avec des gens de la FNSEA, en fait. Donc là, il y a une lutte intéressante qui est en train de naître, enfin qui a 10 ans, mais là, il y a un collectif qui se crée qui va quand même voilà, plus au contact. Et voilà, ce n'est pas tout à fait le même contexte, du coup.
Non, mais c'est bon. C'est
moi, je suis assez curieuse d'avoir votre réflexion là-dessus sur la différence de contexte. Voilà.
Julien, sur les gravières ?
C'est vrai que je vois bien, ça peut créer des alliances assez saugrenues. mais ces alliances saugrenues, en fait, en réalité, elles peuvent peut-être préfigurer ce qu'on appelle tous de nos voeux, en fait. C'est-à-dire que ces questions de flotte et dans leur gouvernance, elles ne soient plus... Et tu me posais la question de « mais qu'est-ce qu'ils craignent ?» En fait, ils craignent une prise qu'on leur retire du pouvoir. Parce que jusqu'à maintenant, ces questions de gestion de l'eau, et en particulier gestion de l'eau agricole, ça se passe en catimini, dans des préfectures, dans des chambres d'agriculture. Et nous, ce qu'on réclame aujourd'hui, c'est une véritable visibilité, une véritable transparence. Quel volume, à quel agriculteur, pour quel usage ? Et puis, surtout, remis en perspective de ce que dit la loi, en vrai. C'est que les usages, et la loi sur l'eau, elle est très claire sur la priorisation des usages. Et qu'en numéro 1, c'est bien l'eau potable. Qu'en numéro 2, il ne faut jamais l'oublier, c'est la sauvegarde des milieux aquatiques et des rivières. Et en numéro 3, c'est l'eau économique, dans lequel, s'il y a éventuellement des volumes, on peut parler d'irrigation sur des territoires où il y aurait de l'eau exploitable. Mais on devrait être capable de passer sous le spectre toutes les demandes de volume d'eau, de les rendre étudiables à partir du moment où les deux premières conditions sont mises en place. Et quand on voit la légèreté scientifique avec laquelle ces projets sont menés, c'est l'accroissement de la température, je l'ai dit, qui engrange un accroissement de l'évaporation. Et elle est où la pertinence de stocker 100 000 litres d'eau si c'est pour en perdre 25 000 ? C'est de la même manière, elle est où la pertinence de mettre des tonnes et des tonnes d'engrais pour gagner 25% de rendement qui vont être perdus parce que dans des silos, dans les stockages, etc., parce qu'on a mondialiser l'économie. C'est à quoi ça sert d'être hyper productiviste si c'est pour faire du gaspillage en réalité. Aujourd'hui, on est à une ère où on doit être pleinement conscient que les ressources sont extrêmement limitées, qu'il faut les penser en solidarité et qu'évidemment, il n'y a plus de place en réalité pour ce gaspillage. Et c'est bien là que les choix futurs doivent être faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, on peut nourrir toute la planète en bio. Mais ça veut dire casser le modèle économique et le fait qu'on ait de la tomate qui vienne du bout du monde pour qu'on exporte à notre tour les mêmes tomates à l'autre bout du monde. Enfin, faut sortir de ça, quoi, complètement. Donc, si on devait imaginer une démocratie de l'eau fonctionnelle, acceptable, etc., il faudrait que sur les moindres demandes de stockage d'eau, il y ait une visibilité citoyenne et des élus, etc., de l'usage et dans quelle mesure ça vient répondre à des priorités qui, si c'est en termes d'agriculture, devraient être vers la réorientation et la relocalisation des productions. En fait, que les volumes d'eau soient attribués en fonction de la création d'emplois. Il y a aussi la question, quand on parle d'accaparement de l'eau, c'est bien parce qu'il y a des fermes qui parfois vont avoir, 200 000 mètres cubes. Pour se donner une petite idée, chez nous, avec 2000 mètres cubes, il y a 4 maraîchers qui alimentent 100 familles. Voilà. Et en face de ça, on a des fermes où il y a un seul bonhomme qui bosse et tout le reste est en sous-traitance. Chaque année, il se voit attribuer 200 000 mètres cubes pour faire du maïs et pour faire joujou sur les cours de la bourse et emmener ça au port de la Palisse à La Rochelle. Ça peut pas passer, c'est pas possible, faut sortir de ça. Mais et pour en sortir, faut bien comprendre comment les institutions de l'eau ont été vérolées par les lobbies, par la FNSEA en particulier, à tous les niveaux. La commission locale de l'eau, du syndicat d'eau potable, de l'agence de l'eau, etc.
Mireille ?
Oui, je voulais dire, il me semble qu'en fait, on ne sait pas, il n'y a pas d'analyse ou de vue de ce que chaque agriculteur ou chaque paysan consomme. Il n'y a pas... Ça n'existe pas. Alors, on ne sait pas qui, quoi, combien on consomme d'eau. Y a personne ne fait ça.
Alors qu'en théorie, les chiffres existent puisque tous les irrigants doivent payer une contribution à l'agence de l'eau dont ils dépendent. Et on a un mal fou à obtenir ces volumes au niveau des agences de l'eau, les champs.
Pas, en fait.
Voilà, c'est ça, c'est planqué.
Alors, je disais tout à l'heure, de quoi ont-ils peur ? Mais en tout cas, ils ont tellement peur que la répression est là dès qu'on lève un petit peu le nez. En particulier à Sainte-Soline, hein, et on disait tout à l'heure que ça avait quand même marqué les esprits, ils ont peur qu'on leur prenne quand même quelque chose pour envoyer devant une bassine qui est encore vide, hein, si je ne dis pas de bêtises, des centaines et des centaines de gendarmes avec des armes de guerre, des hélicoptères, des quads. La guerre se prépare,
hein. On attaque un modèle, en fait, c'est pas la bassine.
Julien ?
Bah pour le coup, c'est un véritable révélateur de ce qu'est le gouvernement Macron et Darmanin. S'ils sont prêts à mettre des gens en armes, payés avec nos propres impôts, c'est ça qui est fou. Hein. C'est incroyable, on se fait tuer par notre propre État. Quoi. On est le peuple, on vient défendre un intérêt public, on vient défendre la vie simplement, et on se fait massacrer. Donc ça veut dire que Macron et sa bande ont choisi leur camp. Et le camp de Macron et sa bande, c'est l'oligarchie, c'est Pionnier, c'est Syngenta, c'est Lee Magrin, c'est John Deere, c'est bien ce cercle d'amis-là qu'il défend quand il envoie 5000 bombes et qu'il génère 200 blessures, avec 4 blessures graves, avec 2 camarades qui ont failli mourir. Ce jour-là, l'État était prêt à tuer pour un trou et à créer toutes les conditions pour que ça puisse advenir. Et avait même déjà prévu les plans de com au cas où ça advienne. Il avait déjà préparé le terrain avec ce terme d'éco-terroriste qui a fait Fleurès depuis. Avec également, il faut s'en rappeler, que 3 jours avant, Darmanin, Fresno et Macron, dans leur prise de parole, annoncent des images dures à Sainte-Soline. Nous, on n'avait pas annoncé des images dures. Hein. On avait annoncé un encerclement festif avec des outardes, etc. Montrer à l'État qu'on est là. On n'avait jamais imaginé. Moi, en tant que... Ah oui, je mets de l'énergie dans ce mouvement-là, etc. Jamais j'aurais pensé qu'ils auraient donné cet ordre de tirer sur des cortèges pacifistes. Jamais j'aurais pensé qu'ils auraient eu et en fait, ça, tout ça, ils l'ont répété, les quads, la chorégraphie des quads. Ça veut dire que ça faisait 2 mois que à Saint-Astier, qui est la base d'entraînement en Dordogne de tous les gardes mobiles de France, il y avait des gars qui faisaient des exercices et qui répétaient leur plan, quoi. Et leur plan, c'était on va les attendre autour du Fortin, et comme ils seront trop loin pour qu'on vienne les atteindre, et qu'on doit, parce que sinon, s'ils étaient restés au Fortin, on serait mis à 200 mètres hors de portée des canons. Ben non, ils venaient à l'agression, et ça, c'est très clair dans le rapport de la LDH. Ils sont venus au-devant de cortèges pacifistes, ont tiré. Évidemment, ça a généré beaucoup de colère et de frustration chez des camarades qui ne veulent pas laisser faire ça, en fait, qui veulent se protéger, les papis, les mamies, les enfants, etc., qui sont dans le cortège, et qui, du coup, et c'est tout à leur honneur, vont défendre et vont s'interposer face à cette armée hyper violente, cette milice, enfin c'est dégueulasse, c'est des bouchers quoi. J'aimerais vraiment qu'un jour les journalistes aillent au devant de ces forces de l'ordre. Comment ils ont vécu Sainte-Soline? Il y en a combien qui se suicideront derrière? Il y en a combien qui démissionneront? Il y en a combien qui vont vivre légèrement avec ça? Les mecs qui étaient sur les quads, quand ils sont revenus à leur base, ils jubilaient. Et là, c'était clairement une bataille de l'extrême droite contre les gens qui se battent pour l'eau. Il y avait une autre bataille à Sainte-Soline qui était entre les lignes.
Alors, non seulement on réprime les manifestations, mais on judiciarise. Il y a eu non seulement des blessés, et donc tu disais, Julien, des blessés graves, mais aussi des arrestations maintenant. Après la répression policière, ça va être la répression judiciaire qui se met en place.
Il y a même la double peine pour voir l'abjection de ce gouvernement qui est en face de nous, qui vient interpeller des camarades à l'hôpital.
Ça, on l'a vu dès le lendemain.
Voilà. Donc, déjà, il y a une perte de confiance évidente vis-à-vis des forces de l'ordre. Maintenant, il y a une perte de confiance vis-à-vis des hôpitaux, puisque ça veut dire qu'il y a aussi des chefs de service qui ont été capables de lâcher en pâture, et là, c'est un grand manquement grave au devoir médical, au serment d'Hippocrate et tout ce qu'on veut. Et en tout cas, sur les Deux-Sèvres, un sentiment aussi de perte de confiance dans le juridique, dans les juges, puisqu'on a pu voir à plusieurs reprises qu'il y a eu des agendas qui ont été tuilés entre les juges et les préfectures. Quand on a une semaine d'intervalle, une convocation en garde à vue juste avant une manifestation de masse, ça veut bien dire qu'il y a l'envie de faire peur, d'impressionner, de faire en sorte. Ils nous ont fait ça les 3 dernières manifs, en fait. Moi, c'est quasiment un rituel maintenant. Je sais que quand il y a une manif, je vais être en garde à vue la semaine d'avant. Vous voyez un petit peu les stratégies qui sont à l'œuvre.
Sur quel critère?
Ils viennent rechercher sur des manifs précédentes tout ce qu'ils peuvent. Oui.
Là, est-ce que tu as été aussi officiellement suivi, géolocalisé
Plus que ça, à l'occasion, on a eu 2 fois l'occasion de prendre les services de renseignement à leur propre piège. Il y a 1 an, 2 ans de ça maintenant, on a trouvé une caméra haute performance devant le domicile de mon père, avec tout le kit de batterie, télétransmission, etc. Le kit était évalué à 40 000 euros et ça ne se vend qu'à l'armée et à des forces et aux gendarmeries et aux services de police. Donc il n'y avait même pas besoin de savoir
d'où ça venait.
Et juste avant Sainte-Soline, j'ai trouvé une balise GPS sous mon véhicule, des camarades des intercantines. Donc, vous voyez, les éco-terroristes, quoi, qui ont également trouvé des balises sous leurs véhicules. Donc oui, on
retrouve ce genre de procédé aussi sur les luttes contre les algues vertes en Bretagne. On le retrouve vraiment partout, quoi.
Enfin,
à Bure, voilà.
Vous savez, on a des auditions, alors que il y a eu des toutes petites actions. Il y a déjà 8 auditions. Enfin,
Mais cette répression judiciaire, elle va crescendo. Je vois sur les faucheurs volontaires, les demandes de dommages et intérêts, et en particulier, deviennent exorbitants. Alors, quand on parle de justice laxiste, remarque, Julien, on le verra le 8 septembre. Ouais, alors, qu'est-ce qui se passe le 8 septembre?
Qu'est-ce qui s'est déjà passé? Parce que c'est vrai que là, je parle de cas de surveillance, etc. Mais alors, nous, on n'en est pas encore à l'étape où on passe au civil sur l'évaluation des dommages et intérêts. Pour l'instant, c'est les peines, c'est le pénal et c'est les peines de prison. Et on a une quinzaine de camarades qui sont déjà passés. Il y a eu 3 séries de procès à Niort et à La Rochelle, où systématiquement des camarades qui se retrouvent avec des peines de sursis, qui sont des primo-délinquants, qui ont des casiers vierges et pour lesquels on les reproche simplement d'avoir participé à une manifestation interdite.
Primo-délinquance, rien que le terme.
Et très souvent sous ce qualificatif, ce chef d'inculpation très fallacieux, et où il y a Paris Héroïque à Niort, où il y a des juges qui statuent là-dessus, de groupement, de participation à un groupement en vue de commettre des dégradations. C'est de la justice préventive. Il n'y a même plus besoin de justifier de dégradations effectives. Le simple fait, là on a des camarades, les juges ont reconnu, il y a 4 camarades, les juges ont reconnu qu'en effet, ils n'avaient commis aucun forfait, ils n'avaient rien dégradé, etc. Mais que le simple fait d'avoir participé à la manifestation avait permis la réalisation d'autres actes. C'est hallucinant, quoi.
On avait commencé à trouver ça avec les gilets jaunes.
C'est cet arsenal qui est à l'œuvre. Et donc on voit bien les peines montées crescendo. On a notamment la semaine dernière le camarade Loïc, qui est maraîcher à Bure, qui s'est vu attribuer une peine d'un an de prison ferme avec aménagement et bracelet. Et ça y est, il est sous bracelet, simplement pour avoir trouvé et fait une photo avec un gilet de flic qu'il a laissé traîner durant la bataille, quoi. Donc évidemment que là, le procès du 8, on est 9 camarades à passer, ce qui est tout à fait insolite et incroyable, et qui dit aussi l'abjection de ce gouvernement, c'est que parmi nous, il y a 5 représentants syndicaux qu'on vient chercher pour avoir organisé des manifs, en fait, pour avoir exercé leur mission. De syndicalistes. Donc, camarade David Baudin de la CGT, le camarade Hervé Auguin de Sud Solidaire, les 3 camarades de la Confédération Paysanne, et puis ma pomme, 3 camarades des soulèvements de la terre. Ça va être un jugement politique historique. On va être des milliers dans Niort.
Donc un rassemblement est annoncé à Niort ce 8 septembre à partir de 10h30, place de la Brèche à Niort. Le combat pour l'eau continue, en particulier avec une initiative, on appelle ça le convoi de l'eau, qui aura lieu du 18 au 27 août. Un petit mot là-dessus.
C'était justement là, en fait, on va partir de Sainte-Soline pour prendre la direction de Paris, et avec une étape très importante qui est à Orléans où se situe l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui finance 50% de tous les projets de méga-bassines et qui évidemment est à interpeller très fort. Et donc on va faire des étapes de 50 km, on va aller de lieu en lieu, c'est des collectifs locaux qui portent des luttes localement autour de l'eau qui nous accueillent, et il sera question de faire la lumière sur ces, donner la visibilité de ces luttes locales. La très bonne nouvelle, c'est que les inscriptions sont closes, il y a une jauge entre 600 et 1000 personnes selon les différentes étapes, en fonction des tailles de camping pour recevoir, des capacités à faire à manger pour tout le monde. Par contre, il y a l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on cherche encore des camarades bénévoles pour faire la popote, etc. Et ça va être une sacrée aventure. On va marcher sur les traces des camarades du Larzac qui s'étaient fait stopper à Orléans à l'époque, mais nous on a bien l'objectif d'aller jusqu'à Paris comme eux l'avaient réussi à le faire en contournant.
C'est la fin de cette table ronde. Merci d'y avoir participé. Merci Fred.
Merci à vous.
Merci Mireille. Merci Julien. Et puis merci à Agnès. Et puis résistons sur Radio Résistante.
Nobassaran.
Nobassaran.
Une méga-bassine, qu'est-ce que c'est ? Une méga-bassine fait 8 hectares. C'est l'équivalent de 8 terrains de football.
Une méga-bassine. L'agriculture pompe trop aujourd'hui sur cette réserve.
La privatisation de l'eau.
Mais pas d'un pompage dans le nappe. Elle est pour nous.
à vos mots,
financé par de l'argent privé.
Des cultures d'exportation. Exportation. Exportation.
Baptiser l'eau, vider les nappes phréatiques, se foutre de la verdure, préfère les pompes afriques, l'accaparement des terres au service d'une minorité, l'agro-industrie, une course au profit incontrôlée, l'assèchement des rivières, la congestion, l'épandage, le mépris des bêtes, des fleurs, de la faune sauvage, une course contre la montre, avant la catastrophe, l'indifférence des préfets, bien sûr on les apostrophe, l'assèchement des cours d'eau, des montages financiers, des drones plus de paysans, des firmes subventionnées, aucun respect du vivant, ni de la beauté rurale, les ressources naturelles, ils pillent comme des chacals, et pour loisir ils butent le renard et autres espèces en crachant sur les promeneurs, sans pudeur ni finesse, la même idéologie mortifère et cruelle, bassine, non merci, c'est notre cri de rebelle, nos bassins. No basalam, no basalam. Basin, no merci. Basin, no merci. No basalam, no basalam, no basalam. Radical écologie, radical écologie. No basalam, no basalam, no basalam. Basin, no merci. Basin, no merci. No basalam, no basalam, no basalam. Radical écologie, radical écologie. Ils veulent toujours plus de blé, alors qu'on est fauché. Volontairement ils pillent les paysages amochés, approchés. Sentez l'odeur de soufre de la pollution. Le futur ils s'en tapent, reprenez votre respiration. Leur seul but c'est l'oseille, pas l'herbe aromatique, ni l'extinction des abeilles, des pirouettes acrobatiques, intellectuels politiques. Ils méprisent l'écologie du lot. Lobbying stratégique, teinté de démagogie, un verre de pesticides en guise de bière santé. Ils ont niqué et balisé leur inté, esquinté la nature, une lame dans le dos de Gaïa, la conscience tranquille, des graines à naturalia, des individualistes, des gros crevards, des sales capitalistes, des gros viandards, des climato-sceptiques, des gros barbares. Des totalitaristes, des gros sommes là.
No basalam, no basalam, no basalam. Basin, no merci. Basin, no merci. No basalam, no basalam, no basalam. Radical écologie, radical écologie. No basalam, no basalam, no basalam. Basin, no merci. Basin, no merci. No basalam, no basalam, no basalam. Radical écologie, radical écologie.